tous les cas particuliers s'expliquent. Elle parle pour la norme de la communauté. Ben, ça se rattache à ce que je vous ai dit, ça se trouve dans le Maseret Brachot. Quelqu'un qui reste une semaine sans rêver est appelé Rachar. Pourquoi ? Parce que est-ce qu'on peut être une semaine sans avoir un cauchemar dans le monde comme il est depuis le début ? Depuis le début du récit de la Torah sur l'histoire du monde, on voit que c'est un monde catastrophique, chaotique, hein, avec une tentative de chercher une harmonie qui échoue sans arrêt. Enfin, on reprendra ce thème-là lorsqu'on étudiera l'apparition de l'identité hébraïque, ou alors là, l'espérance apparaît. Mais tout le récit de la Torah semble être très pessimiste avant qu'on arrive à Abraham. C'est un échec perpétuel. Hein. Alors, qui peut dormir tranquille dans un monde pareil ? N'est qu'à lire le monde, vous saurez comment c'est le monde. Vous voyez à quoi je peux pas faire allusion. Okay. Eh bien, pourquoi je vous ai parlé du sommeil du juste ? À propos de quoi ? De repos du Shabbat. Et pourquoi je vous ai parlé du Shabbat ? Voilà. Alors, vous recodez en hébreu. Okay. En hébreu, c'est Maase Bereshit, l'œuvre du commencement. Le monde a été créé au commencement. On va lire le verset. Et c'est un tout autre sujet qu'on étudiera peut-être une autre année, que vous étudierez à part. Et pourquoi, au commencement, le monde est dans l'état de chaos ? C'est un mystère. Hein ? Ça, c'est parce que Dieu a créé le monde, il est dans l'état de chaos. On ne se rend pas compte de ce qu'on dit. Hein ? Et si ce n'était pas Dieu qui a créé le monde, pauvre de nous, on serait. Regardez comment dit la Bible. Au commencement, Dieu avait créé le ciel et la terre. Résultat, et la terre était chaos. Vous vous rendez compte qu'on ne sait pas lire ? Qu'est-ce qu'on dit ? Dieu a créé le ciel et la terre, alors le résultat, c'est que la terre est chaos. Ça vous a jamais frappé, ça ? Vous voyez qu'on ne comprend pas. Hein ? On dit OK, on passe. Hein ? Lecture pieuse. Hein ? Et personne ne se demande, enfin, il faut se demander de quoi on nous parle. Quand Dieu crée le monde, c'est un chaos. Vous avez compris qu'il y a une question, là. Hein ? Bon, ça s'étudie d'autre part. Mais à l'instant du commencement, le monde qui apparaît à l'existence est à l'état de chaos. Il y a 6 jours de l'organisation de ce chaos qui s'appelle Maase Bereshit, l'œuvre du commencement. Shechet Yemei Maase, les 6 jours de l'œuvre du commencement. C'est clair ? Bon, alors on va vérifier la base de cet enseignement, que créer, ça veut dire il n'y avait rien, il y a. Comment ça se dit en hébreu ? C'est la bria, yesh, me'ayin. Yesh, il y a, me'ayin, à partir de il n'y a pas. Ça prend même pas l'instant du commencement. C'est clair ? En français, on le cite en latin, c'est la création ex nihilo. C'est du latin qui veut dire yesh me'ayin, okay ? Ex nihilo. Mais les latins eux-mêmes répondaient ex nihilo, nihil. Du rien vient rien. On ne se rend pas compte, c'est une notion incompréhensible créée. Il n'y avait rien, il y a quelque chose. Alors, dès qu'on dit « c'est Dieu qui a fait ça », on est renvoyé à la toute-puissance de Dieu. Donc, on désigne le mystère. Mais c'est une notion qui n'est pas humaine, créée. Parce que nous n'avons... C'est moi ? Oui. Alors, réfléchissez à ça. Et vous me rappellerez, je suis dans le... Cette idée-là, il faut vous la retenir par cœur, qu'elle soit très claire. Le mot de « baro », créé, et donc la notion de création, la « bria », renvoie à une notion qui n'est pas une notion de l'intelligence humaine. Parce qu'on n'a pas expérience de quoi il s'agit. Il n'y avait rien, il y a. Et on est familier, alors la familiarité de l'évidence nous fait croire que c'est rationnel. Mais c'est au-delà de la raison. Il faut faire appel à la toute-puissance de Dieu pour désigner le mystère que de rien peut apparaître un monde. Et deuxième question subsidiaire, mais qui est une question importante, et pourquoi cette apparition à l'être est à l'état de chaos ? Vous avez compris ? Ça, on va pas étudier tout cela, mais simplement je vous le signale. Et il y a au moins 2 raisons pour lesquelles cette notion de création doit être comprise comme un objet de foi. Faites bien attention, si certains d'entre vous deviendront un jour des pédagogues, enfin des enseignants, il faut jamais dire aux enfants que quelque chose qui n'est pas rationnel est rationnel. Parce qu'après, ils vont grandir, ils vont s'apercevoir qu'on les a trompés, et ils vont tout abandonner à cause d'une inadvertance du pédagogue. Vous savez, les Juifs ont plusieurs ennemis. Il y a Gog, Magog, Démagogue et pédagogue. Heureusement, il y a la synagogue, mais ça, c'est... Pour revenir au sujet, il y a énormément de pédagogues qui naïvement croient qu'il faut protéger l'enfant. Et vous savez, il n'y a rien de plus intelligent qu'un enfant, parce qu'il a une pensée neuve. Un enfant, on ne triche pas. Okay? Quand on lui raconte des histoires, il se dit, bon, ça, c'est des histoires d'adultes, des contes de fées pour adultes. Okay? Je ne sais pas, quand vous aurez des petits-enfants, quand vous serez mariés, Mazal Tov, si c'est en train, vous verrez qu'un enfant, on ne peut pas le tromper. Alors, comme il est très gentil, il fait semblant que ses parents sont bébés. Bon, je reviens au sujet. Non, c'est clair ce sujet-là, je pense. Alors, c'est un objet de foi. C'est parce que la Torah l'a dit qu'on sait que c'est vrai. Alors, ça nous est tellement familier qu'on croit que ça va de soi. Ça ne va pas de soi. De rien ne vient rien. On ne comprend pas ce que ça veut dire. Après, expérience. Personne n'a eu expérience de quelque chose qui apparaît de rien. Tout à l'heure, je vous ferai une exception, hein, mais puisque je parle de ça. Mais pour le moment, que l'idée soit claire, mais rationnelle, enfin pour l'esprit, en tout cas de la culture contemporaine, que ce qu'on a, dont on a expérience, que ce qu'on peut observer pour en faire la loi. Alors par définition, l'instant du commencement, c'est un instant unique et qui ne se répète pas. Vous savez pourquoi dans les traductions, je vous ai donné un texte en français de traduction de Rachid sur ce verset, mais qu'on hésite entre des mots français, commencement, début. Comment dit-on le commencement en hébreu? Atrala. Et qu'est-ce que ça veut dire Atrala en français? Début. Bon, vous avez compris ma question. Et comment on va traduire Bereshit, hein? La notion de commencement n'est pas une notion rationnelle. Personne n'a expérience de ce qu'est qu'un commencement. Nous avons expérience du début. Au début. Mais au commencement, le commencement absolu, c'est un mot qu'on emploie sans se rendre compte qu'on ne sait pas l'expérimenter. Est-ce que quelqu'un se rappelle son propre commencement? Vous savez que vous êtes né, parce qu'on vous l'a dit. Et puis parce qu'autour de vous, vous avez vu tout le monde naître. Aaron, mais aucune preuve. C'est pas oui dire que vous savez que vous êtes né, que vous avez un commencement. Est-ce que vous êtes capable de vous rappeler du commencement? Non? Vous vous rappelez à l'origine, au début. C'est clair? La notion de commencement ne fait pas partie du vocabulaire humain. Et on verra d'ailleurs que le verset en tient compte. Alors d'une part, ce n'est pas une notion rationnelle. Alors, lorsque on parle de ça et qu'on dit aux enfants, mais ça va de soi que le monde a un créateur, ça ne va pas de soi pour la raison humaine. On le sait que c'est vrai parce que la Torah l'a dit. Retenez bien cette formule-là. Sinon, ça reste une hypothèse. Par le raisonnement, je peux arriver qu'à deux hypothèses contradictoires, donc le monde a un créateur ou donc le monde n'a pas de créateur, suivant que je suis sensible à tel ou tel aspect du monde. Si je suis sensible à l'aspect du monde qu'on appelle le déterminisme des lois de la nature, ça me renvoie à un monde sans créateur. Ça me renvoie à un monde qui fonctionne par lui-même en obéissant à des lois aveugles, impersonnelles et qui n'ont pas d'exception. Le déterminisme, ça renvoie à la nature. Comment dit-on la nature en hébreu? Teva. Teva. Mais la Torah parle de Bria. La Torah parle d'un monde qui renvoie à l'idée que ce monde a un créateur. Et pourtant, elle sait très bien que nous sommes dans un monde qui nous renvoie à l'idée de la nature. C'est ça que nous allons étudier. Pourquoi la Torah a tenu à nous dire ce qu'elle nous dit dans ce premier chapitre que personne ne comprend? Mais au moins, il est là, dans le texte, écrit, de telle sorte qu'on le lise. Est-ce que c'est bien clair? Et là, je vous cite Maïmonide. Maïmonide qui explique que du point de vue du raisonnement philosophique, théologique, on ne peut arriver qu'à une hypothèse. Nous savons d'autre part que cette hypothèse est vraie, mais parce que la Torah a dit, ça confirme que c'est vrai. Mais du point de vue de la raison humaine laissée à ses propres forces, ça reste hypothétique. C'est parce qu'il y a eu révélation au Sinaï, qui est un événement historique. Et que dans cette révélation, la voix qu'on a entendue a dit « Je suis celui qui a créé le monde et je suis celui qui vous a fait sortir d'Égypte. » Mais l'événement, c'est la sortie d'Égypte. C'est la révélation au Sinaï. Et là, c'est surtout Judas Lévi qui enseigne. La preuve, c'est la révélation du Sinaï. La preuve, c'est notre histoire. Notre histoire, ce n'est pas une hypothèse. Comme je vous ai dit tout à l'heure, ce livre dépend du lecteur. Eh bien, j'avais un maître qui disait « Ce livre est un roman policier qu'aucun homme n'a pu écrire. » Pourquoi un roman policier? Vous savez que dans un roman policier, on cherche un coupable. Il y a un livre, la Bible, où on cherche un coupable. Qui est responsable de l'état du monde. C'est vrai. Et alors, d'ailleurs, les goïms s'en donnent à cœur joie, les juifs. Et puis, à un certain moment, le héros du livre quitte le texte et c'est moi. Et c'est moi, fils de un tel, fils de un tel, fils de un tel, fils de Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham. C'est moi, c'est vous. C'est-à-dire, c'est un livre qu'aucun homme n'a pu écrire, parce que c'est mon histoire qu'il écrit. Mais, dans tous les cas, c'est parce qu'il y a eu cette révélation, que cette révélation a dit que le monde a un créateur, que je le sais. Que je le sais au niveau certitude de vérité. Livré à mes propres forces d'intelligence, je peux arriver qu'à une hypothèse. Si j'ai le postulat d'un esprit scientifique, alors tout ce que je perçois du monde me persuade du contraire. C'est la nature, c'est, je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous a fait des sciences, quand vous rentrez dans le laboratoire, vous laissez la Bible à la porte. C'est une phrase de Pasteur. Vous avez entendu parler de Pasteur, la pasteurification. Comment on dit pasteuriser en hébreu moderne? C'est rentrer dans l'hébreu moderne. Pour dire que quelque chose est pasteurisé, on dit mefoustar. Vous ne connaissez pas ça. Alors apprenez. Vous avez énormément de mots de l'hébreu israélien. Vient de l'étranger. Comment on dit une brosse en hébreu israélien?
Une brosse.
Mais vrai, chef, d'où ça vient? Brosse. Non. De brush, l'anglais. Mais vrai, chef. Des fois, on a pris même des Italiens. Comment on dit une glace? En hébreu. Glida. C'est gelati de l'italien. Bon, je reviens au sujet. Vous êtes polyglotte, sans le savoir. Alors, en fait, c'est ce que nous dit le premier verset. Cette notion que il n'y avait rien, il y a quelque chose, mais ça dure un instant. Alors retenez que le mot « beria », création, ça n'occupe pas de temps. C'est clair ? C'est un autre mot qui veut dire le temps de l'organisation des six jours. C'est l'organisation du monde qui était à l'état de chaos jusqu'à ce qu'il devienne habitable pour l'homme. C'est le sixième jour que l'homme apparaît. Dans le récit et dans le monde, ça se dit en hébreu la yetzira. Le fait que le monde a un boré, le créateur qui l'a fait apparaître à l'être, à l'état de chaos, et ce boré a été yotzer. Il a agencé le chaos du commencement. C'est la yetzira. Et l'œuvre de la yetzira s'appelle asiya. Vous avez déjà trois termes. Baro, yatzor, asso. Vous apprendrez en hébreu, mais ne sont pas synonymes. Si dans un verset vous avez bara, c'est bara. Si dans un verset il y a yatsar, c'est yatsar. S'il y a asa, c'est asa. Mais dans vos traductions, on vous mélange tout ça. Vous avez compris d'où vient l'imprécision de vocabulaire. Alors faites attention. Vous savez, le drame des enseignants du judaïsme en français, c'est pas tellement qu'ils connaissent pas l'hébreu, c'est qu'ils connaissent pas le français. Vous avez compris la différence. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Donc, le français c'est une langue qui existe pour elle-même, c'est une langue très riche, très nuancée, et il ne faudra pas l'oublier, provisoirement mettez-la de côté, vous arrivez à rêver en hébreu, mais une fois que vous rêvez en hébreu, n'oubliez pas le français, ce serait dommage, mais ce n'est pas notre langue. Alors pensez, la Torah en français, c'est pire qu'un cauchemar, je ne sais pas comment on appelle ça, c'est du christianisme tout simplement. Très souvent J'entends des rabbins qui font des sermons en français. Je ferme les yeux et je me dis, mais où suis-je? Dans un endroit où on dit Amen en latin ou Amen en hébreu. Vous avez compris la différence. Alors je reviens. D'ailleurs, en général, ils sont un genre. Heureusement qu'ils n'ont plus de soutane, les rabbins. Vous vous rappelez du temps où ils avaient des soutanes? C'était le judaïsme soutanique, satanique. Pour revenir en tout cas au sujet, qu'on n'a pas quitté d'ailleurs, on va lire le premier verset. Bereshit, je vous traduis littéralement. Bereshit, au commencement, Bara avait créé, c'est un plus que parfait. Le passé simple se dirait Vaibra. Mais Bara avait créé Elohim, Dieu, et on a l'habitude de dire Elohim, comme vous savez. Les mots qui veulent dire Dieu dans le texte biblique, on ne les prononce pas exactement comme ils sont. À la langue, vous serez familier chaque mot, comment on le prononce. et les anciens Sfaradim mettaient un dalet à la place du hé. Et en général, on appelait la tradition des Ashkenazim de mettre un kouf à la place du hé. Alors on dit Elokim. Et à Shamaïm, les cieux, et à Aret, et la terre. Est-ce que vous avez remarqué qu'il y a deux mots que je n'ai pas traduits? Je répète la traduction que je vous ai donnée. Suivez sur le texte. Au commencement, Bereshit, Bara avait créé, Elohim, Dieu, et à Shamaïm, les cieux, et à Aret, et la terre. Et. Oui, la traduction met entre parenthèses le et. Bon, on n'aura pas le temps d'étudier ça aujourd'hui. Rappelez-moi un jour si dans un verset on rencontre cette désinence et. On l'étudiera pour elle-même, mais pas aujourd'hui. Notez ça quelque part. J'ai demandé d'ailleurs à quelqu'un de prendre en note, peut-être toi qui as un grand cahier, de prendre en note les questions qu'on laisse en suspens. Hein, tu notes. Alors c'est toi le secrétaire. Hein. Tu sais que c'est un secrétaire. C'est quelqu'un qui doit taire les secrets. Alors surtout, n'en parle pas. Alors, mais quoi qu'il en soit. Vous voyez ce qu'a dit le verset ? Au commencement, Dieu créa. Quoi ? Les cieux et la terre. Tout est créé au commencement. C'est clair ? Oui ? Ça s'épuise dans l'instant du commencement. Vous voyez qu'on ne sait pas lire ? C'est bien compris. Rachid pose la question. Si tu dis que au commencement, il a créé quelque chose et après, il a créé la suite. Après, il a créé quoi ? Puisque dans le premier verset, il a créé tout, les cieux et la terre. Est-ce que c'est clair ? Alors, c'est qu'on a mal compris le mot de créer. Créer, ça veut dire faire apparaître à l'être. Faire apparaître à l'existence. En araméen, baro, en araméen, ça veut dire mettre en dehors. Est-ce que quelqu'un d'entre vous connaît encore l'arabe ? Il n'y a pas des noms africains d'origine chez vous là ? Comment on dit l'étranger en arabe ? Brani. Ça vient de quelle racine ? Bara, dehors. Bara. Vous avez vu ? C'est un peu comme en araméen. Vous avez un nom de famille d'ailleurs, Baranès. Ça vous dit quelque chose? Ouais. Baranès. Ça veut dire le barbare. Baranès. En arabe, bien sûr. C'est le métèque, celui qui vient de l'étranger. Barbaroi, en grec, ça veut dire les étrangers. Comme les Grecs étaient racistes, les étrangers étaient évidemment des barbares. Alors, vous voyez, si une vision en araméen, ça voudrait dire extérioriser, mettre en dehors ce qu'il y avait en dedans. En latin, c'est littéralement faire exister, situer dehors. Bon, oubliez l'étymologie, mais c'est pour vous faire comprendre qu'il faut l'entendre en hébreu. En hébreu, ça veut dire, il n'y avait rien, il y a. C'est ça, bara en hébreu. En araméen, ça veut dire mettre en dehors ce qu'il y avait en dedans. Est-ce que vous chantez les Zmirot du vendredi soir? Vous avez dans une Zmira qui est en araméen, Yaribol, l'expression Hevat bara ve'ofesh maya. Ça vous dit quelque chose? Hevat bara ve'ofesh maya. C'est de l'araméen, je vous le dis en hébreu, Hayot asade ve'of hashamayim. Et en araméen, c'est Hevat bara ve'ofesh maya. Hevat, c'est Hayot, bara, sade. Sade, c'est le champ, bra, ce qu'il y a dehors. Il y a la ville et il y a le sadé. Et en araméen, ça se dit bara, le sadé. Vous voyez, ne vous trompez pas de langue. C'est-à-dire, si vous pensez hébreu, pensez hébreu. On ne peut pas lire ce texte en français. Parce qu'en français, d'ailleurs, dans aucune autre langue que l'hébreu, il n'y a aucun mot qui signifie créer comme en hébreu. C'est une notion hébraïque. Tous les mots des traductions, je peux vous citer le grec, le latin, l'anglais, le français, tout ce que vous voudrez, ça veut dire faire. Mais faire, c'est à partir de quelque chose. Vous comprenez ? Tandis que créer, c'est à partir de rien. Et même le mot créer en français, je vais vous faire une étymologie latine, mais oubliez tout ça, ça vous encombrerait. Ça veut dire rendre chose, créer. Res, en latin, ça veut dire une chose. Créer, ça veut dire faire chose. Réaliser. Vous voyez l'étymologie latine derrière. Et de là vient d'ailleurs le mot rien en français. Rien en français, ça veut dire quelque chose. Vous savez pas ça? Un rien. Ça veut dire un quelque chose. Vous n'avez pas remarqué ça? Non. Alors, quand vous dites créer, vous employez un mot faux pour dire bara en hébreu. Mais par convention, on va garder le mot créer dans le sens hébreu. Ça veut dire ex nihilo, yesh me'ayin. Oui, ça s'épuise dans l'instant du commencement. Voilà, c'est clair? Et je vais vous montrer ça dans le texte en hébreu et après vous oubliez. Prenez le mot bereshit. Quelles sont les trois premières lettres du mot Bereshit? Bara. Oui. Le commencement du commencement, c'est la création. Allez, c'est clair? C'est l'hébreu, hein? Et alors, ça me mène à ma deuxième question. Si je dis au commencement, Dieu créa, je dis un pléonasme, parce que ça ne peut pas être avant ou après le commencement. Ça y est, c'est clair? Alors donc, j'ai lu un texte, un verset, sans comprendre le premier mot. Le premier mot est en trop. Donc, ce n'est pas le vrai verset que j'ai lu. Je reprends le raisonnement. C'est un raisonnement très simple. Hein, j'ai lu un verset qui semble me dire « Au commencement, Dieu créa ». Tout de suite, je découvre que ça ne peut pas être ni avant ni après le commencement. Si on me dit « Dieu créa », c'est ça le commencement. Alors, que ça veut dire « Au commencement, Dieu créa ». Donc, je n'ai pas lu le mot « Bereshit ». Je l'ai mal traduit. Parce que si je le traduis au commencement, ça ne veut rien dire. Il est trop. Moi, je parle de la Bible. Ce n'est pas n'importe quel livre. Est-ce que c'est clair? Vous voyez qu'on ne sait pas lire? Vous voyez, retenez ça et oubliez. Retenez ça, on ne sait pas lire. Et oubliez la lecture. Sinon, ça va vous donner des cauchemars. C'est-à-dire, on est en train de manier un texte qu'on sait qu'on ne comprend pas et on fait semblant de comprendre. Vous avez remarqué? C'est 11h30. Bon, j'ai compris. Alors, on va la suite dans 5 minutes. Prenez un peu de vous aérez un peu. Avec leur sens. Voilà. Alors, on est déjà vu le nom de Barra. Je vous écris en carré ou en cursive? Vous êtes habitué en cursive? Top. Alors, vous avez Barra. Signifie créer. Mettre ça. Former, agencer, à ça, à ça, j'ai faire. Il y a encore un autre, d'autres termes, mais je vous mets juste un à l'avant, parole, qui signifie accomplir. Là, asso, faire, c'est la notion en français de, pour suffire, de activité, action. Ça, c'est la formation, l'agencement. Et ça, créer, c'est. Alors, d'autre part, vous retiendrez ces deux expressions en hébreu. Ça y est pour ça? Bon, ben, copiez-vous les uns les autres. Aidez-vous les uns les autres. Ça y est? Alors, nous allons masser des Bereshit, l'heure du commencement. Masser des Bereshit. Et vous avez l'expression chuché, irné, amas. Les 6 jours du commencement. C'est clair? C'est ça qu'on a appris, grosso modo. Okay. Bien. Alors là, commence donc un récit qui est le premier chapitre de Bereshit et les 4 premiers versets du deuxième chapitre. Ça vous apprendrait d'autre part que la division en chapitres, qui s'appelle la capitulation en français, capital, c'est chapitre en latin. C'est une tradition chrétienne. C'est la tradition chrétienne qui a divisé le texte en chapitres. La tradition juive, elle le divise en paragraphes, qui sont les parachiotes. Vous avez, quand vous serez familier avec le texte du Mikra, vous verrez, vous avez des parachiotes qui commencent par la lettre P, d'autres par la lettre Samar, des Ptuchas Touma. Vous avez entre deux versets la lettre P ou la lettre Samer. Vous familiarisez avec ça. Bon, il y a des raisons théologiques pour lesquelles il découpe les chapitres autrement que nous les découpons nous. En tout cas, ce que j'appelle moi le premier chapitre de Maasé Bereshit, l'œuvre du commencement, ça va jusqu'au verset 4 du deuxième chapitre. Je vérifie. C'est ça. Les trois premiers versets du deuxième chapitre font partie du début. Alors, nous avons là un récit qui est structuré en 6 jours plus un 7e. La question de savoir que signifie le mot de jour dans ce récit, c'est un autre problème. Il y a derrière ce problème une question très, très classique, celle du calendrier. Nous nous comptons d'après le calendrier traditionnel, où il y a 6000 ans, grosso modo. Nous sommes en 5744. Et c'est un autre sujet, alors que les savants parlent de millions d'années. Un jour, peut-être si on a le temps, on étudiera ce sujet pour lui-même, mais je le signale et je le laisse de côté. Le sens du mot « jour » dans ce récit. Quoi qu'il en soit, puis c'est le mot de « yamim » en hébreu, on a l'habitude de le traduire par « jour », on va garder cette habitude. Nous avons donc un récit structuré. Quelqu'un peut me demander un verre de thé au bureau. Quelqu'un a disparu, là ? C'était une place vide ou bien ?
Le prochain cours aura lieu le mardi 7 à quel endroit ?
Ici.
Ici ? Oui. Toujours, on va dire, oui. Ici.
Vous n'êtes pas interdit de séjour ici. Et alors, qu'est-ce que je disais avant le vide ? Non, j'ai pas dit 6 jours plus 1. Je dis 6 jours et le 7e. Tu vois que tu connais pas tes répétitions. Parce que d'Afka, le jour 1, c'est le premier, c'est pas le 7e. En tout cas, pour revenir au sujet, nous avons un récit qui raconte, c'est un récit historique, l'œuvre du commencement. Et quand vous lirez ce chapitre, vous le lirez pour la semaine prochaine d'ailleurs, attentivement, vous verrez qu'il y a un plan, une structure du récit de chaque jour. Le plan est le même, mais de jour en jour, c'est plus explicite. La manière dont la Torah nous raconte qu'est-ce qui est arrivé du projet du Créateur. Nous avons 6 étapes, et au bout de 6 étapes, Dieu juge que le monde est suffisamment agencé pour que l'homme puisse y être situé, pour que le monde puisse devenir habitable pour l'homme. Suivez bien le vocabulaire que j'emploie. Arrange tes pieds, toi, ça me gêne. Et je reprends ce que je dis. C'est un récit qui nous montre l'agencement du monde. Et je vais prendre comme ligne de lecture avec pour objectif que le monde soit suffisamment habitable pour que l'histoire de l'homme puisse commencer. Nous allons prendre ce postulat de lecture. C'est clair jusque-là ? Effectivement, nous verrons qu'au 6e jour, l'homme apparaît dans le projet du Créateur, il apparaît dans la réalisation du projet. Et habituez-vous déjà à distinguer, chaque fois que la Torah parle du projet, c'est le mot de baro qui est employé, ce que Dieu a voulu créer, et ce qui a été fait, c'est vayaras, il fit. Vous voyez, l'autre terme. Et donc il y a un décalage, ça va être le sujet ce qu'on va apprendre maintenant, il y a un décalage entre le projet et la réalisation du projet. C'est la notion que nous allons étudier aujourd'hui, le décalage entre le projet du Créateur et ce qu'il y a eu dans la réalité. À cause de quoi ? Nous allons étudier cela à cause d'un problème très important. C'est le fait qu'il y a, semble-t-il, une contradiction entre ce que nous pouvons penser théoriquement d'un monde créé par Dieu, qui en principe devrait être parfait, puisque Dieu est parfait. Je laisse de côté la question du chaos, mais même l'agencement du chaos, nous pourrions le penser comme parfait. Et voilà que nous sommes dans un monde imparfait. Alors ce décalage, ce contraste entre ce que la Torah est censée nous dire du monde, un monde parfait, et le monde réel dans lequel nous sommes, est source d'énormément de problèmes, de cas de conscience pour la conscience humaine. Comment maîtriser cette contradiction apparente dont personne n'ose parler, parce qu'on ne met pas en question ce que la Bible a dit, seulement on lui fait dire, pas forcément ce qu'elle a dit vraiment, une espèce de contradiction. On est censé être dans un monde parfait, mais on sait qu'on est dans un monde détraqué, indépendamment du fait qu'il s'agit de traces du chaos de l'origine, mais c'est encore un autre problème. Pourquoi il a fallu qu'il y ait un chaos, l'agencement du chaos ? mais même l'agencement du chaos aurait dû être parfait. Et voilà que ce contraste-là gêne. Et alors, premièrement, il faut remarquer que la Torah n'emploie pas du tout le même verbe lorsqu'elle parle du projet du Créateur et de la réalisation de ce projet. L'affirmation monothéiste, c'est que l'un, c'est l'autre. Le Boré, qui a voulu le projet du monde parfait, et le Rossé, qui a fait le monde comme il est, c'est le même. Dieu est un. Mais bien attention à cela, mais c'est un acte de foi. Dans notre expérience du monde, il y a un décalage entre ces deux niveaux, le projet et la réalisation du projet. Est-ce que la manière de poser le problème vous est suffisamment claire, Ken? On n'a pas encore rentré dans la réponse, mais je voudrais que vous compreniez bien le problème. Et on ne peut pas ruser en se disant « la question ne se pose pas ». La question se pose. Un monde où les tuiles tombent des toits, où on s'enrhume, où il y a la guerre, et tout le reste. Lisez le monde, vous saurez ce qu'il y a dans le monde. Okay? Alors comment comprendre ce contraste entre Dieu créa le ciel et la terre, et puis il a agencé en 6 jours pour qu'il soit habitable pour l'homme, et subitement on se trouve dans un monde qui semble être en contradiction avec ce projet, en décalage. C'est clair ? Et ça se rattache à déjà 2 notions qu'on a vues tout à l'heure, le monde de la création qui suggère qu'il a un créateur et le monde de la nature qui suggère le contraire. Comme je vous disais tout à l'heure, suivant celui qui observe le monde, son option spirituelle, il voit un monde qui a un créateur ou il voit la nature qui n'a pas de créateur.